Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, ce dimanche 30 janvier, et on va démarrer et on va consacrer une bonne partie de cette émission à la saison croisée France-Portugal qui démarre le 11 et va se prolonger pendant 6 mois. On aura avec nous Emmanuel de Marcy Mota, président de la saison croisée et directeur du théâtre de la ville de Paris. Dans le studio, on a Bruno Bertoise, compositeur et pianiste, et par téléphone, Anne-Vitorine d'Almeida, compositrice. Pardon. On parlait aussi de musique avec le quintet, le concert impromptu. On va savoir un petit peu plus comment est-ce qu'un quintet peut avoir un répertoire qui touche, qui va du 18e siècle était jusqu'au compositeur contemporain. Avec nous, Violaine Dufesse, justement concertiste et directeur artistique du quintet. Et un rapport de la préfecture de police de Paris au sujet de l'accueil dans les commissariats des femmes victimes de violences, un rapport qui a été gardé dans le tiroir pendant 3 ans. Céline Malaisé, élue au la région Île-de-France, va nous expliquer exactement le contenu et pourquoi il a été gardé pendant quelques années. Et on parlera également de la situation au Portugal. On parle beaucoup de lithium. Lithium pour construire les batteries pour les voitures électriques. Eh bien, la population ne veut pas. Et pour finir, on va aborder la situation dramatique du mouvement associatif portugais en France à cause de la Covid-19. Avant tout, Bruno Bertoise, bonjour et merci d'être ici avec nous.
Bonjour Arthur, c'est un plaisir.
Alors, avec nous aussi, par téléphone, on a Emmanuel de Marcy Mota. Emmanuel, bonjour.
Bonjour, bon dia.
Merci d'être avec nous. Alors, cher président, je sais que c'est difficile de résumer 6 mois d'initiative. Elles sont multifacettes. Comment est-ce qu'on pourrait, caractériser cette saison croisée France-Portugal?
Alors, c'est extrêmement important puisque ce sont des moments rares et dont il faut profiter, je dirais d'abord. C'est-à-dire l'idée que ces deux pays qui sont deux pays extrêmement fraternels, deux pays qui sont précurseurs de l'humanisme européen, deux pays qui se connaissent, qui s'apprécient, et pour lesquels il faut construire une perspective pour l'avenir, à travers les arts, à travers la culture, mais aussi à travers l'environnement, à travers l'égalité des femmes et des hommes, à travers toutes ces valeurs pour notre avenir en commun au sein d'un espace européen. C'est-à-dire définir ensemble ces deux pays qui ont un passé colonial extrêmement fort, qui ont dû lutter pour avancer dans l'histoire après des guerres de décolonisation, après des moments terribles d'immigration aussi économique. Comment envisager avec la jeunesse cet avenir entre nos deux pays au sein de l'espace de l'Europe comme finalement deux pays très en avance, deux pays qui gagnent à être connus plus encore l'un de l'autre à travers ces scientifiques, aussi ces artistes. Cela veut dire que la saison, c'est 9 mois, du mois de février jusqu'à fin octobre, qui vont devoir promouvoir, mettre en avant des talents, des nouveaux talents dans la science, dans les arts, dans l'éducation, parmi toutes ces femmes et tous ces hommes qui œuvrent aujourd'hui à faire avec les nouvelles générations, je dirais, des choses nouvelles qui nous permettent de penser l'avenir ensemble. C'est-à-dire quelque chose de fraternel et aussi de créatif. Voilà, donc il y a une grande ambition dans cette saison pour qu'elle soit aussi inclusive et qu'elle permette au maximum de personnes d'y participer, puisque c'est quand même, en résumé, pour finir, plus de 80 villes en France, plus de 50 villes au Portugal qui y participent, donc c'est un très grand événement. C'est aussi plus de 500 manifestations aujourd'hui repérées, avec des grandes manifestations autour des océans, de la place de la mer, de l'océan Atlantique qui borde nos deux pays, et de ces grandes questions aussi d'avenir, d'égalité, entre nos peuples.
Alors, Emmanuel, une dernière question, savoir avec la journée du 13. Une journée du 13, une organisation du théâtre de la ville avec le théâtre du Châtelet. Alors là, c'est la musique lusophone qui est à l'honneur pendant toute la journée du 13 février.
Oui, alors cette journée du 13 février, c'est-à-dire un dimanche, nous avons voulu à Paris avoir aussi, puisqu'il y aura la journée de lancement le 12 à la Philharmonie, avec un grand concert de musique, mais la journée du 13, pouvoir inviter aussi, je dirais, les pays lusophones qui ont une si belle relation avec le Portugal. Donc le Théâtre du Châtelet à Paris sera ouvert à partir de 10h du matin pour accueillir grandes marionnettes de la grande tradition qu'on retrouve dans le nord du Portugal et aussi dans le sud, et qui sont des marionnettes qu'on a retrouvées aussi en Angola et dans d'autres pays, dans ces traditions et de liens entre les peuples. Ensuite, il y aura, bien sûr, on pourra déjeuner, se restaurer, donc des moments de convivialité, des ateliers aussi le matin, ouverts pour les enfants, les familles. Tout ça est gratuit toute la matinée à partir de 10h30. Donc on vous invite à vous rendre place du Châtelet pour découvrir ensemble un moment convivial pour lancer cette saison. Et à partir de 15h, un grand concert qui ira jusqu'à 20h, qui invite justement des musiciens et des grands groupes qui vont du fado que l'on connaît, mais aussi en passant par la morna du Cap-Vert, en passant aussi par les musiques d'Angola, du Mozambique, dans les croisements justement de la musique et de la littérature entre nos pays. Ce sera accompagné de moments de prise de parole, qu'elles soient d'intervenants artistiques, de grands artistes et de pays qui seront présents aussi dans cette grande journée. Donc c'est une grande journée de fête et vous pouvez tout trouver sur le site du Théâtre de la Ville et Théâtre du Châtelet. On sera vraiment heureux d'être nombreux ensemble. Radio Alpha, vous êtes partenaire, je sais, de cette journée de la saison, et c'est formidable. Ça sera l'occasion, justement, de nous retrouver ensemble, j'espère, avec un peu d'espoir aussi, après ce Covid terrible qui nous a tellement empêchés aussi de fêter et célébrer des moments artistiques, culturels et de joie.
Tout à fait. Donc, ça sera le 13 dans 2 semaines, mais bien entendu qu'on va revenir dessus. Emmanuel, merci, bon travail, parce que je sais que vous avez plein de choses à faire. Merci.
Merci beaucoup, bonne émission et je vous écoute toujours avec joie. Merci beaucoup, à bientôt.
Alors Bruno, justement, votre travail, parce qu'il y a un dossier, ce dossier-là de participation à cette saison croisée, ça s'est commencé à se préparer il y a combien de temps? Ça fait plusieurs mois, un an environ.
Vous savez, c'est monter un programme comme celui que nous allons donner le 11 février à la Philharmonie, c'est un travail de au moins 2 années. Car en fait, tout commence par une rencontre entre le chef d'orchestre Michael Cousteau et moi-même, et Michael, qui avait l'habitude qui avait déjà travaillé sur des années croisées, notamment l'année France-Roumanie, a souhaité trouver un artiste, un musicien qui soit très lié à la musique portugaise. Il est venu vers moi, je ne le connaissais pas. J'étais enchanté parce que finalement nous avons construit un programme. Alors construire un programme, ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que pour nous, c'était important d'imaginer que l'orchestre puisse, à travers des commandes contemporaines et l'interprétation du répertoire des grands musiciens français et portugais, puisse symboliser cette grande amitié et ce chemin vers l'avenir avec des créations contemporaines. Et donc, on a construit ensemble petit à petit ce programme en réfléchissant vraiment sur le fond, comment créer des liaisons vives, des liens entre tous les aspects de ce programme. Donc, je vous le dresse assez rapidement. Ce programme, en fait, mettra en valeur la souche, finalement, de notre culture, c'est-à-dire un grand compositeur français qui est Maurice Ravel et un grand compositeur portugais qui est Fernando Lorge-Glas. Et ces deux pôles nous permettent d'appuyer deux créations. C'est en cela que le programme est novateur et est un programme qui cherche à s'adresser à l'intelligence du public, c'est-à-dire de montrer combien la création d'aujourd'hui est vive dans nos deux pays et de se reconnaître, car c'est quand même l'objectif de cette saison croisée, c'est de savoir écouter l'autre, de favoriser les rencontres dont parlait Emmanuel de Marcimota, les rencontres humanistes entre les deux pays, et à travers la musique, on aura cette confrontation, cet épaulement, cette belle chose qu'est la création. Donc, on aura au programme un compositeur français, Benjamin Attahir, qui compose spécialement pour la soprano Raquel Camarinha, qui fait partie du programme. Et de l'autre côté, cette parité avec la présence d'une compositrice portugaise, Anne Victorine d'Almeida, à laquelle j'ai commandé un concerto pour piano, qui sera son opus 78. Elle a déjà de nombreuses œuvres dans son répertoire, et elle compose ce concerto de piano en s'inspirant à la fois de ses racines portugaises, mais aussi de sa part française, puisqu'elle est de double culture avec une mère française. Et je voudrais souligner enfin que, effectivement, la journée officielle du 12 est une journée est la journée qu'a choisi la Philharmonie pour lancer l'année croisée, mais en fait, elle commence la veille.
Elle commence avec nous à la Cité de la Musique. Alors justement, on a parlé de Anne Vitrine d'Almeida. Anne, avant tout, bonjour, boa tarde.
Bonjour, bon dia.
Merci d'être avec nous. On va peut-être continuer en français, mais c'est comme on veut. On a l'avantage dans cette radio de pouvoir passer d'une langue à une autre et tout le monde doit se comprendre. Alors Anne, justement, cette invitation, bon, il y a la saison croisée, bien entendu, mais ça va être une création à Paris d'une composition à vous.
Oui, exactement. C'est une invitation qui m'a fait très 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 plaisir. Je suis née en France, j'ai ma famille en France, une grande partie de ma famille en France. Donc ça a un sens très très fort pour moi. Donc j'étais vraiment très très heureuse de recevoir cette invitation de Bruno Beltoise il y a un an et demi à peu près. Et en plus, pendant une période assez difficile, donc on commençait toute cette aventure Covid, on ignorait encore ce que ça serait, mais c'était vraiment une époque spéciale et qui m'a rendue très très heureuse de pouvoir écrire ce concerto et de pouvoir participer pour la saison croisée. Donc.
Alors, Bruno, il est là avec nous.
Oui, ben je voudrais, alors c'est justement pour moi, c'est l'occasion de remercier une fois de plus Anne, parce qu'elle a fait un travail incroyable. D'abord, elle a son talent de musicienne, et en plus, elle a relevé ce défi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met en face. Hein, c'est vrai que pour le compositeur, la page blanche, ça existe aussi. Et il faut commencer, il faut rentrer dans la matière musicale, et c'est la création, c'est ça le mystère de la création. Donc j'ai merci Anne pour toute cette aventure partagée avec toi, je suis absolument ravi, vraiment.
Mmh. Alors, qui te remercie aussi.
Alors Anne, justement, bon, le travail de Bruno Beltoise est assez important en France pour faire connaître justement la musique classique et pas seulement portugaise. Vous, que vous êtes née en France, vous êtes née dans la région parisienne, à Poissy, si ma mémoire est bonne.
Oui, à Poissy.
Alors justement, la musique classique portugaise en France, il y a tout un travail à faire pour la faire connaître.
Oui, on a beaucoup de répertoires, on a beaucoup de beaux répertoires qui méritent de se faire connaître effectivement. On a une longue et belle histoire au niveau musical et de composition. Et je souhaite beaucoup que toute notre musique puisse se faire connaître non seulement en France mais dans tous les pays parce que nous avons vraiment un très 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 beau répertoire. Absolument.
Et à propos de répertoire, vous avez composé aussi des musiques pour des films?
Oui, j'ai fait quelques musiques de films, quelques musiques de théâtre. En fait, tout ce qui est au niveau composition, j'ai toujours accepté plusieurs nombres de défis contrastants, et donc notamment quelques films, documentaires et pièces de théâtre. Oui.
Voilà, Lettre à une dictature de Inés Moder.
Oui. Oui.
C'est important tout ce travail. Et d'ailleurs, dans la famille Antoine Vitorino d'Almeida, il y a une constante dans votre famille, c'est une chose extraordinaire, c'est que la culture, c'est toujours à l'avant. C'est la culture qui prime, la culture aussi qui réagit aux situations difficiles, comme c'était la dictature au Portugal. Donc, c'est quelque chose qui est ancré dans votre famille.
Mais disons que nous avons toujours grandi comme ça, et c'est vrai que quand on connaît le milieu artistique qui est effectivement magique, quand on assiste depuis qu'on est tout petit à ce que signifie la page en blanc et ce que signifie la création qui vient ensuite, c'est vrai que difficilement on ne peut pas être très très touché et inspiré par ce monde-là. Donc je pense que le fait d'avoir un papa musicien, compositeur, artiste, écrivain, qui a fait de la télévision et de la radio, c'est vrai que ça nous a sûrement beaucoup beaucoup influencé pour qu'on suive donc ce chemin.
Et alors Anne, ça fait 2 ans qu'on est sous le régime de la Covid, donc l'art, la culture en général, la musique en particulier, vous avez beaucoup souffert, on a beaucoup souffert, nous tous, même les spectateurs.
On a tous beaucoup souffert, surtout parce qu'on n'a pas pu se prévenir, c'était totalement inattendu. Donc effectivement, là je parlerai plutôt niveau Portugal, parce que c'est vraiment ce que j'ai senti. C'est vrai qu'on avait plusieurs problèmes à résoudre, et la Covid, franchement nous a montré qu'il fallait vraiment voir la culture d'une autre façon, que tous les artistes puissent être plus soutenus. Donc on a vraiment été frappés et attrapés d'une façon très très violente, et bon souhaitons que ça passe vite et qu'on puisse récupérer et qu'on puisse repenser la culture, les artistes et qu'on puisse s'en remettre. Parce que ça, voilà,
parce qu'à chaque crise qu'on traverse, bon, des premiers budgets qui disparaissent pratiquement, c'est celui de la culture. En France, ça a été un petit peu différent, mais enfin. Alors, Anne Vitelline d'Armède, vous allez venir à Paris, justement, le vendredi 11, ou pas?
Oui, je serai à Paris. Mmh. Je serai, oui, j'y serai. Mmh.
Donc, et c'est Bruno qui va jouer. Bruno est en train de lire là maintenant.
Non, je vous écoute très bien.
Ouais, justement, bon, Anne va être là, donc.
Oui, bah Anne va être là et c'est très bien parce qu'elle sera là également pour les répétitions. L'Orchestre national de Picardie va commencer ses répétitions la semaine du concert, pour la semaine du concert, et donc ça va être un moment très excitant de rejoindre le piano avec l'orchestre, parce que pour l'instant l'orchestre est dans la tête du pianiste, mais il n'est pas encore vivant. Et là, mais bon, l'œuvre est très claire, très bien construite, et je pense que les choses vont se passer très bien. C'est une joie, et c'est toujours très émouvant quand même pour l'interprète de jouer une œuvre en présence du compositeur. Hein, on aimerait bien parfois pouvoir le faire avec Chopin, Schumann ou Beethoven, mais non, on a ces compositeurs d'aujourd'hui qui sont là présents avec nous et qui nous emmènent vers leur musique. C'est formidable.
Donc, ça sera à partir du 7, alors, de cette...
Ça commence le 8, oui, 8, les premières répétitions.
Anne Vitelline d'Armède, merci. Et on se donne rendez-vous, donc, avec le public, le 11 février à la Cité de la Musique à Paris.
Merci.
Merci bien.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, Bruno, deux créations, donc une pièce de Anne Vitelline d'Armède et une autre création, Benjamin Attahir.
Ben Benjamin Attahir est un jeune compositeur hein, qui a 30 ans, 31 ans et qui est déjà demandé dans le monde entier. Daniel Barenboim lui commande des œuvres. Son opéra sur un texte de Maeterlinck a été donné à la Monnaie de Bruxelles. Enfin, il est vraiment très demandé. Et c'est une relation amicale avec le chef d'orchestre Michael Cousteau qui a permis cette commande d'œuvres auprès de Benjamin. Benjamin a déjà une longue histoire avec la chanteuse Raquel Camarinha, pour laquelle il a déjà composé sur des textes de poètes portugais comme Peixoto. Et donc l'aventure a été de rejoindre le monde des contes de Ravel, qui va être donné, les contes de Maberlois, qui vont être donnés à la fin du programme, et d'ouvrir cette page, une page littéraire où on aura la présence dans un texte qui s'appelle « O pescador e a lua »,
C'est un texte de Raquel.
C'est un texte de Raquel parce que finalement l'idée au départ était de chercher des poètes portugais, d'essayer de voir comment on pouvait construire quelque chose pour que la composition parte aussi dans le domaine de la langue. Et finalement Raquel a décidé d'écrire elle-même le conte qui sera chanté.
Alors Bruno Bottas, on va passer juste le début justement de d'une composition de Benjamin Attahir. Le titre, je ne le connais pas. Mais enfin,
c'est en fait un concerto pour serpent, qui est un instrument ancien, que je pourrais vous parler, pour serpent et orchestre. C'est l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch.
Alors, un extrait. Benjamin Attahir. Bon, on a quelques petits problèmes techniques, mais enfin, ça va venir. Alors, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, donc, que ça, c'est Raquel Camarinha qui a fait en sorte que Benjamin puisse composer la musique, parce qu'il est parti des textes.
Oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'abord d'inviter Benjamin, et Benjamin a convié Raquel pour cette aventure de composition d'un texte, et de composition d'un texte qui serait spécialement un conte qu'elle a écrit dans les deux langues, où elle parle à son enfant de 6 ans, et elle lui raconte l'histoire d'un pêcheur, de la lune, et elle passera comme ça du français au portugais dans une histoire très poétique.
Alors, on a parlé de Lopes-Gras.
Oui, voilà, le programme du concert va commencer par une œuvre emblématique de Fernando Lopes-Gras, la Sinfonietta pour orchestre de Lopes-Gras, qui est une œuvre qu'il a composée en 1980, dédié en hommage à Joseph Haydn. Et cette œuvre est en quatre mouvements, très emblématique de l'écriture néoclassique de Lopes-Gras. Et c'est une belle façon de commencer ce concert et de donner la place à l'un des plus grands, en ce qui me concerne, hein, ce n'est que mon opinion, mais à l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle, qui est Lobsgras.
Alors, ces concerts, bon, le premier, comme j'ai dit, ça va être à Paris, le 12, c'était la musique, mais il y a tout un tas d'autres concerts qui sont déjà programmés, en France, mais également au Portugal.
Et oui, effectivement. Alors, ce projet qui sera donné en avant-première à la Cité de la Musique le 11 février, avec l'Orchestre de Picardie, partira ensuite très rapidement en tournée, puisque le 19 février, avec l'Orchestre, Orchestra Clássica da Madeira, nous allons faire la création au Portugal, bien que ce soit à Madeira, et bien c'est en terre portugaise, la création du même programme. Et à chaque fois, ce sont les mêmes interprètes, c'est le même chef d'orchestre, Miquel Cousteau, mais à chaque fois avec une phalange différente, un orchestre différents. Et ensuite, le programme sera donné dans la saison de l'Orchestre Metropolitano de Lisboa.
Le 7 mai.
Le 7 mai, donc dans le magnifique Museu dos Coches. Et il y aura ensuite une date avec l'Orchestre Classique du Centre à Coimbra, qui sera donné le 25 juin. Donc, nouvelle aventure dans un nouveau lieu. À Coimbra, c'est magnifique. Il y a un auditorium du Convento San Francisco qui est vraiment un superbe écrin musical.
Alors, parallèlement, il y a quelque chose qui continue également, c'est la collection Compositeur portugais, répertoire pour pianistes. Et là, bon, on a déjà une date, le 3 juin, lancement du volume 10.
Et oui, ça sera le 10e volume de cette collection que nous avons conçue avec João Pedro Mendes dos Santos, qui travaille avec moi sur la constitution des œuvres. Et ce volume réunira une grande quantité de conservatoires français, d'élèves. Le but, c'est de permettre à la musique portugaise de pénétrer le répertoire des pédagogues en France. Et ce 10e volume sera entièrement dédié aux fados qui ont été composés pour piano à travers plein de niveaux de pianistes différents, de niveaux de difficultés différentes. On partira de fados simples jusqu'à des fados du répertoire. Mmh. Donc ce grand concert sera à la Maison du Portugal le 3 juin à 18h. C'est formidable de voir, on va dire 30 pianistes, jeunes pianistes interpréter la musique portugaise. Ouais.
On revient au direct. Alors, justement, on parlait de 30 jeunes pianistes et des conservatoires français et portugais. Alors, il y a une liste énorme cette année, c'est incroyable.
Oui, il y a énormément d'élèves. Mmh. Il y a des nouveaux conservatoires chaque année. Donc, en fait, mon objectif, c'est de proposer tout un ensemble de pièces aux professeurs et ils choisissent pour leurs élèves. Moi, je fais tout le plan de concert. Je fais toute la coordination du projet. Et une fois que le programme est monté, eh bien, on articule tous les élèves de ces conservatoires auxquels se joignent des écoles de musique et des conservatoires portugais, comme le Conservatório de Barcelos, comme celui de Aveiro. Et ils viennent à Paris et on fait un grand concert pour le lancement de ce nouvel album. Et c'est vraiment une opération qui, bon, depuis 2013, se produit chaque année. C'est vraiment un grand doping, c'est un grand booster pour la musique portugaise auprès des professeurs.
Alors, il y a déjà d'autres volumes qui sont prévus. 2023, 2024, 2025, c'est un travail de longue haleine, tout ça.
Ah oui, c'est un énorme travail. Non, mais c'est un énorme travail. Bon, on aura certainement un deuxième volume de Novos Fados para Piano, des fados plus contemporains. On aura un album dédié aux études. C'est très intéressant de prendre les études, c'est-à-dire toutes les pièces à destination du perfectionnement technique pour les pianistes. Et on aura aussi, donc ça sera celui de l'année prochaine, un album entièrement dédié à Danças Portuguesas, qui seront donc tout un ensemble de sélections de pièces qui ont à voir avec la chula, avec le fandango, avec toutes les danses traditionnelles portugaises, mais évidemment dans la musique savante pour les pianistes.
Mmh. Alors, ce qui compte aussi, c'est la maison d'édition, parce qu'il y a toute une collaboration avec la maison qui est dite, justement, tout ce travail-là.
Exactement. C'est une maison portugaise, c'est un éditeur, celui qui a le plus gros catalogue et qui fait le plus gros travail actuel, c'est Ava Musical Editions, édition Ava, A-V-A. On peut les trouver très facilement sur Internet. Le catalogue est entièrement disponible et c'est vraiment une collaboration déjà de longue haleine. Je révise beaucoup de partitions du répertoire en dehors de ces albums pour Ava, de manière à ce qu'on ait des éditions propre, réviser le mieux possible, que la diffusion se fasse de la meilleure qualité auprès des musiciens professionnels.
Alors Bruno, tout ce travail-là est fait depuis cet nombre d'années, donc ça veut dire que les répertoires, on s'en sert dans les conservatoires ici en France, on fait travailler les élèves là-dessus.
Et oui, l'objectif c'est comme pour la saison croisée, c'est-à-dire que ça crée des petits après, c'est-à-dire qu'on est progressivement des professeurs, et c'est le cas, par exemple au conservatoire du Grand Avignon, qui est un conservatoire régional important en France, eh bien les professeurs organisent cette année de leur propre initiative une grande opération qui s'appelle le Voyage de Magellan et dans lequel il va y avoir des masterclass de piano et d'instruments autour de la musique portugaise, des concerts d'étudiants qui sont réunis et donc tout ça c'est l'impulsion, le fait d'être venu à Paris jouer la musique portugaise qui leur donne à nouveau l'idée de continuer dans leurs propres établissements des aventures de cette espèce. Mmh. Ça j'en suis ravi parce que c'est ça l'objectif en fin de compte. C'est ce rapprochement, cette reconnaissance mutuelle qui a beaucoup été du côté portugais vers les Français et en fait aujourd'hui c'est important que les Français, les musiciens, les artistes reconnaissent tout ce qu'il y a de riche et de passionnant dans le répertoire portugais.
Oui, parce que jusqu'à maintenant, c'était un sens unique, c'est ça?
Ah, certaine manière. Alors non, il y a quand même plein d'exceptions. Hein, il y a des aventures très particulières. On penserait par exemple à Michel Giacometti. Mmh. L'énorme catalogue qu'il a fait sur les musiques traditionnelles du pays, c'est quand même son initiative, sa passion. C'est un Français. Bon, il y a eu l'intérêt de Debussy pour la musique de Francisco Lacerda. Il y a eu le fait qu'on a reconnu à Paris João Domingos Bontempo comme étant un des pianistes les plus doués de sa génération. Génération au début du 19e. Donc il y a des aventures isolées qui sont. Mais aujourd'hui, c'est important justement que les pianistes. Le Portugal a un répertoire incroyable pour le piano, extrêmement riche, diversifié dans tous les styles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'apporter cette pierre portugaise dans cette musique savante au niveau européen, parce qu'il y a peu de pays qui ont autant développé la musique de piano.
Est-ce que le Portugal, ministère de la Culture, soutient votre travail et d'autres personnes?
Oui, il y a des soutiens, bien sûr. L'Institut Camões est présent à chaque fois pour le lancement, financièrement, pour le lancement de ses concerts, le lancement de ses albums. Mais Ava Musical Edition, maintenant, dorénavant, a un soutien officiel du gouvernement portugais, du ministère de la Culture, pour collaborer d'une certaine manière à l'édition générale d'Ava, mais aussi particulièrement à ses albums.
Sans oublier RTP2. Justement de ces programmes que vous réalisez régulièrement à RTP2.
Alors c'est surtout avec Antena 2. Antena 2 est un partenaire. Ils ont toujours été extrêmement attentifs au projet le premier concert avec Antena 2, c'est quand même 2001. Ça remonte déjà à longtemps. Mmh. Et en 2017, j'ai eu l'envie de célébrer à travers un double album toute notre collaboration avec les concerts en direct que nous avons fait. Et ce double album intitulé que vous connaissez, hein, Lisboa Paris, c'est un album qui regroupe que un itinéraire, je dirais, de c'est un peu un double album qui fête mes 15 ans de collaboration avec la radio. Donc ce sont beaucoup de concerts en direct et ce sont des créations et c'est là toujours la confrontation et le dialogue entre la musique portugaise et française, c'est ça qui me tient à cœur.
Alors on dit que la musique classique c'est pour une minorité de la société, c'est pour des gens d'une certaine classe sociale, etc. C'est complètement faux. Parce que bon, quand on voit par exemple le travail de Lopes Gras, c'est pas seulement, parce que une bonne partie du travail, son travail est basé justement sur la musique tradition orale. La musique, ça fait un tout, non?
Ah ben c'est là on prend un exemple extraordinaire quand on parle de lui. On pourrait parler des heures de Lopes Graça, qui est un musicien immense, non seulement par l'étendue de son œuvre, hein, plus de 250 numéros d'opus, mais aussi parce que il fait connaître à travers un langage moderne toute cette richesse traditionnelle portugaise. Moi, je pense que, en effet, l'objectif du concert que nous allons donner le 11 février à la Philharmonie, c'est justement d'être accessible absolument à tous les publics. Mmh. C'est-à-dire que les créations contemporaines sont très diversifiées au niveau du style. La musique de Juan Victorino Almeida n'a rien à voir avec celle de Benjamin Tahir, et pourtant, ils sont contemporains, de la même génération, et ils se complètent, ils montrent toute la diversité des langages qui existent dans la musique d'aujourd'hui. Et très, très, très parlant pour le public. Donc je pense que ce concert, c'est un concert qui ne peut que donner de la fierté aux Français et aux Portugais, aux Français par ce partage et cette reconnaissance, et aux Portugais parce qu'ils sont éclairés à travers un programme de cette sorte dans une salle si magnifique et à la même, au même niveau que la musique française.
Donc ça sera le vendredi 11 février à 20h30, c'était de la musique à Paris et tournée jusqu'au mois d'octobre, mais d'autres projets, il y a tout un tas de projets parce que je sais que Bruno Bellepoix, il n'arrête jamais. Bon, mais déjà maintenant l'essentiel c'est la saison croisée.
Oui, c'est la saison croisée. Je voudrais juste dire un dernier mot, si je puis me permettre, par rapport à cette date. C'est vraiment le premier concert, le premier programme labellisé officiellement par la saison croisée qui va être donné le 11 février. Et j'insiste sur ce fait-là parce que bien que le week-end Portugal, de la programmation de la Philharmonie, a donné une place très visible au concert de Maria João Pires le 12, le 11 février, c'est le concert le plus franco-portugais de toute l'aventure de ce week-end.
Oui, donc c'est le résultat aussi de tout un travail en amont.
Tout à fait, c'est un énorme travail.
Alors, je m'excuse, Bruno Bertoz, nos auditeurs également, parce qu'on a des quelques problèmes techniques, parce qu'on avait prévu tout un tas de musique, même des extraits justement de la composition de Juan Victorino Almeida, aussi de Fernando López Gras, de Benjamin Atahir, mais apparemment on a un gros problème du point de vue technique, mais enfin, à moins que, Manuel. Ah bah alors, Juan Victorino. Bah, alors, Fernando López Gras, voilà, Nosso Senhor de Granja. Ouf! Merci d'être là. Grâce à Nosso Senhor de Granja, alors joué par Bruno Bertoz, je crois.
Oui, c'est l'extrait d'un album dédié aux Melodias Rústicas Portuguesas pour piano de López Graça que j'ai enregistré en partenariat avec la pianiste Cristina Margotto, qui est professeure au Conservatoire de Porto. C'est un bel album sur López Graça, et c'est vrai que là, López Graça nous montre toute la capacité qu'il a dans cette pièce à imiter les adoufs de la région de Beira Baixa. Je crois que je me trompe pas. Et donc, c'est dans cette région-là qu'on trouve ces femmes qui chantent sur ces percussions carrées, magnifiques. Et cette pièce est très, très emblématique de López Gras, de son style.
Enfin, López Gras, c'est que j'ai eu encore le bonheur de l'écouter quand il dirigeait une chorale à Lisbonne, un troisième étage, maison de Trás-os-Montes, s'il vous plaît, où il y avait quelqu'un sur le balcon pour voir si la police politique ne montait pas les escaliers. Voilà, c'est des trucs. Alors, justement, un petit extrait, et en même temps, je voudrais remercier Bruno Bertoz d'être venu ici chez nous. Et de toute façon, au rendez-vous est donné le 11 février, 20h30, à Cité de la Musique, à Paris, pour ce concert avec le chef d'orchestre Michael Cousteau, mais également qui Raquel.
La soprano Raquel Camarillo.
Un strato de ma pièce de Benjamin Atayer. Justement, il y aura une composition, une création le 11. C'était la musique d'un concert avec Bruno Beltoise. Mais déjà, on continue dans le sein de la musique classique, mais on va faire un petit détour dans la mesure. Il y a aussi l'improvisation et justement un répertoire qui va du XVIIIe siècle jusqu'au compositeur contemporain. Violaine de Dufez, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci avec nous. Alors, ce concert impromptu, c'est de là dont on parle, justement, ce quintet. C'est quelque chose qui a été créé en 1991, sauf erreur de ma part.
Exactement. C'est un quintet qui a à peu près 30 ans d'histoire.
Alors, 5 souffleurs dans le vent, ça mérite des explications.
Ah, alors à cette époque-là, donc il y a 30 ans, le fondateur Yves Charpentier a créé ce quintet avant, et puis ils sont devenus permanents en 96, c'est-à-dire qu'avant ils étaient professeurs, et l'idée c'était de devenir un groupe de musique de chambre à part entière, et se dédier totalement à son répertoire et à la création pour le quintet avant. Donc c'est pour ça que dans le vent, c'est parce que il y a la volonté de ne faire que de la musique de chambre son métier, d'une part, et d'autre part, ben, parce que justement dans les instruments à vent, eh bien on souffle.
Alors il y a quelqu'un qui a participé justement dans ce concert impromptu. Il est là avec moi, Bruno Beltoise.
Bonjour Violaine.
Bonjour Bruno.
Alors, ce travail en collaboration, donc, parce que Violaine vous a pris vous avez pris en charge, entre guillemets, bon, maintenant vous êtes devenue la directrice artistique, mais ça fait combien de temps que vous faites partie du concert impromptu?
Donc, comme tout groupe de musique de chambre, le quintet a changé de membre et d'instrumentiste, et donc moi je suis arrivée il y a 8 ans dans l'aventure à la sortie de mes études.
Donc il y a eu des concerts, je pense que Bruno a participé à des concerts, Bruno.
Ah ben oui, il y a eu plein d'aventures. Enfin, Yves Charpentier, le fondateur du quintet, je le connais déjà depuis 1991, donc c'était au début de l'aventure du quintet. Et puis, bon, nous sommes très amis, on a commencé des concerts jeunes publics ensemble en 93. Et puis il y a eu plein d'aventures de création qui font partie maintenant du répertoire du cross-opéra du quintet avant le concert impromptu, et donc il y a eu des créations, beaucoup de commandes, on a fait des aventures même autour de la musique portugaise, des rapprochements entre les artistes comme Vera da Silva et René Char, on a eu des aventures également à la radio à Lisbonne ensemble, enfin bon, et en dehors de ça, c'est une vraie amitié musicale qui perdure.
Alors, Violaine Dufez, vous êtes musicienne au bois, vous êtes danseuse aussi, chorégraphe. Qu'est-ce que vous faites pas? Je m'excuse de poser des questions comme ça.
Ah, c'est adorable. Écoutez, moi je crois que c'est pas la question de faire ou de ne pas faire. La question c'est que c'est un métier, en tout cas ce métier de chambriste, un métier d'artiste à part entière. Et je crois que c'est être artiste avant tout. Donc après avoir la danse, la poésie, la composition dans ses cordes, c'est quelque chose qui se fait peut-être de manière soit intuitive, soit de manière fort dans l'éducation artistique. Pour ma part, la danse a été vraiment une formation depuis le très jeune âge. Et donc, je crois que voilà, en tout cas dans ces métiers de passion que Bruno aussi connaît très bien, il y a cette idée d'aller au-delà que de l'interprétation, de la recherche de répertoire. Il y a l'intérêt aux autres arts, à la poésie, notamment portugaise. Voilà, c'est vrai que Bruno Beltoise est un partenaire du concert impromptu qui a fait découvrir aussi tout un univers artistique du Portugal, notamment aussi avec El Douro, donc ce film de
Manuel de Oliveira.
Exactement, Manuel de Oliveira, sur lequel ils ont improvisé avec Yves Charpentier, voilà. Et donc le fait d'être danseuse pour le concert impromptu est bien entendu un plus, mais je crois que c'est pas forcément ça qui a fait que je suis rentrée au concert impromptu de prime abord.
Alors, Violaine, quelque chose de très important, et je pense que vous voulez faire quelque chose, c'est que les femmes, elles aient une place dans la musique classique.
Alors oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors après, ça peut sonner un petit peu niaiseux ou un petit peu, un petit peu haut de rose quand on le dit comme ça. Mais je crois que c'est la question de l'émancipation, c'est-à-dire que voilà, la question de la femme compositrice ou de la femme artiste a évolué au fil des sociétés humaines, au fil de l'art et au fil notamment de sa place au sein de nos différents mondes et donc cette idée d'accès sur la femme, c'est cette idée de montrer que une émancipation et un épanouissement via le genre est aussi possible.
Alors c'est pas pour rien que vous êtes en résidence à Ivry-sur-Seine en banlieue du département 94 et vous faites pas mal d'animations dans les écoles et vous travaillez aussi avec le public jeune, c'est important d'être en banlieue.
Oui, alors ça fait 20 ans que le Concert Impromptu est implanté dans cette belle commune communiste. Et c'est vrai que le tissage culturel est très fort dans cette ville-là. Et l'idée du territoire est quelque chose que le Concert Impromptu a beaucoup à cœur, parce qu'il ancre vraiment un discours. Et l'idée aussi de rendre accessible la musique classique et contemporaine à tous est un de ses axes forts depuis le tout début de sa formation.
Alors, parlons un petit peu en Afrique, on va jusqu'au Congo, puisqu'il y a quelque chose qui était prévu, bon, c'était déjà prévu en 2019, entre-temps la Covid elle est arrivée, elle continue encore, mais un petit peu. Mais enfin, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est deux slams sur la construction du chemin de fer Congo-Océan?
Oui, alors une des actualités de l'ensemble, ce sera, il y a un des temps forts de cette année 2022, ce sera la tournée d'un cross-opéra qui s'appelle Congo-Océan. Et voilà, c'est la suite d'une aventure et d'une amitié congolaise avec un collectif de slam style oblique. Où nous y étions allés en mars 2019. Pour construire justement un concert, spectacle, un cross-opéra autour de ce fait historique du chemin de fer Congo-Océan, qui a été une catastrophe historique dont les Congolais ne sont pas forcément tous au courant. Voilà, c'était comment relier l'intérieur du Congo à l'océan via la construction de ce chemin de fer et c'était sous Félix Eboué, entre autres, au début du XXe siècle. Et cela a créé vraiment, voilà, c'était de l'esclavagisme, ça a créé beaucoup de morts et un traumatisme quand même très, très fort. Et c'est vrai que ce chemin de fer a été une démonstration de force pour, soi-disant, le développement du pays. Et ça a été un argument fort pour l'écriture de ces slameurs congolais qui ont produit quelques slams de leur plume et donc on a mis en musique, on improvise avec eux sur scène, ils slament leur texte, un petit peu de mise en scène aussi, et l'idée c'est d'éclairer à un moment donné sur la question, voilà, des questions qui est très chère à l'ensemble, la question de la liberté, de l'émancipation et de l'épanouissement et du développement personnel.
Bon, donc il y aura quatre slameurs qui vont faire une tournée de 3 semaines d'Ivry sur Seine à 7 dans le sud de la France. Violaine, merci également à Bruno. Et justement, et on va, pour finir, on va passer une musique. Alors, je garantis pas la prononciation. C'est des Gluck. C'est correct ou pas, Violaine?
C'est exactement ça.
C'est oui. Ça. Donc, concert impromptu. Merci. Merci bien. On s'approche tranquillement des 13h. Je rappelle que l'émission est rediffusée dans la nuit du mercredi, jeudi à partir de 0h. Merci, Bruno. Encore
merci,
une fois.
Merci.
Merci, Violaine.
Merci. Au revoir. À bientôt. Thank you.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E on vient au direct, deuxième heure de ce passage à niveau, ce dimanche 30 janvier. Je rappelle que l'émission a rediffusion, justement, le mercredi, la nuit de mercredi à jeudi, pardon, à partir de 0h. Violence faite aux femmes, un rapport demandé par la préfecture de police, apparemment, a été dans le tiroir pendant des années. Céline Malaisé, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes présidente du groupe Gauche communiste et citoyenne de la région Île-de-France. Mais avant d'aborder cette question, pourquoi est-ce que le rapport a été gardé au chaud, je passe l'expression, ça fait 12 femmes qui ont été tuées par les compagnons ou ex-compagnons en France depuis le début de l'année. Moi, j'appelle ça la comptabilité macabre. Quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter ce massacre?
Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter? Il va falloir des moyens. Alors, pour répondre à votre première question, le rapport qui vient d'être publié en catimini est un rapport qui avait été commandé par la préfecture de police elle-même au centre Hubertine Auclert, qui est un observatoire régional contre les violences faites aux femmes qui lui est rattaché, qui fait un travail de très grande qualité et qui a enquêté pendant plusieurs mois auprès de 3 commissariats à Paris et en Petite Couronne pour voir les conditions d'accueil des femmes victimes de violences conjugales ou autres, mais surtout conjugales. Et ce rapport est un rapport qu'elles ont que le centre a terminé en septembre 2019 et qui, depuis septembre 2019, finalement, n'était pas rendu public. C'est un rapport qui est à charge. Voilà, à charge parce que les conditions d'accueil vraiment sont très mauvaises et l'ensemble finalement du suivi de la procédure judiciaire qui pourrait être enclenchée ou qui l'est de temps en temps l'est également tout autant. Donc la préfecture de police a préféré cacher la réalité, sauf que la réalité c'est cette comptabilité macabre dont vous faisiez allusion sur 12 féminicides déjà depuis le début de l'année, donc depuis le seul mois de janvier. Qui montre que notre société ne s'est pas encore finalement arrêtée des violences qui sont faites aux femmes.
Alors commençons par l'accueil, bon ça laisse beaucoup à désirer, souvent la presse a dénoncé justement, bon et même des fois quand une femme va porter plainte, le policier lui demande « vous étiez habillée comment ?» Voilà, donc ça commence par l'accueil déjà.
Alors, ça commence par l'accueil avec et le rapport le soulève bien des postures professionnelles qui sont souvent très inadaptées vis-à-vis des violences qui ont été, enfin des femmes qui ont été victimes, à la fois par le genre de remarques que vous avez relayées, mais aussi sur une minimisation des faits que les femmes viennent relater en disant ça n'a pas l'air si grave que ce que vous racontez, ou bien des femmes qui sont victimes de violences peuvent être aussi dans un espèce de déni de la gravité des faits, voire de situations traumatiques où c'est difficile de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Et finalement, le rapport relève que des policiers, par manque de formation, aussi des fois par manque d'effectifs, n'ont pas pu accueillir les femmes de la bonne manière. Ce qui fait que finalement, parce que ça, tout le monde le sait, malgré tout, depuis longtemps, et ce qui explique que parmi les femmes victimes de violences conjugales, il y en a seulement 1 sur 5 qui va déjà porter plainte, et cette 1 sur 5 peut être très très mal reçue.
Et en même temps, il y a un certain nombre de plaintes. Bon, il y a les mains courantes, et les mains courantes, il faut dire, bon, ça va pas très loin, il y a une main courante, bon, c'est écrit, mais c'est tout. Mais après, il faut qu'il y ait un suivi aussi. Est-ce que finalement, au niveau de cette enquête, dans ces 3 commissariats, est-ce qu'on a analysé aussi, parce qu'après, il faut avertir le procureur de ce qui se passe?
Alors, c'est le fait que le rapport ait été mis dans un tiroir pendant si longtemps fait que on peut douter sur le suivi. Moi, ce que je sais, c'est que parmi un des 3 commissariats qui a été auditionné, un des commissaires s'est rendu compte que ça dysfonctionnait complètement. Et de manière très volontariste, a tout misé sur la formation, parce que le centre Hubertine Auclert dispense aussi des formations aux commissariats, enfin aux policiers et puis aux gendarmes. Et ce commissaire a dit maintenant il faut remédier à ces dysfonctionnements. Donc ce qui est plutôt positif, sauf qu'il faut une prise de conscience générale, puisque c'était 3 commissariats alors pris au hasard, hein, voilà, qui sont, me semble-t-il, assez révélateurs de ce qui se passe dans notre pays et dans notre région. Mais il faut des moyens de formation qui soient alloués aux policiers, avec par exemple des policières ou des policiers qui soient vraiment des référents sur les questions des violences conjugales. Et puis aussi, il faut des effectifs pour pouvoir suivre et instruire en fait jusqu'à terme la procédure judiciaire qui sera enclenchée. Donc, les associations féministes expliquent de manière très régulière que il y a les gros mots, il y a les mots creux du gouvernement. Darmanin d'ailleurs disait encore il y a 5 jours que toutes les femmes qui étaient psychologiquement ou physiquement atteintes par leur compagnon, quand elles déposent plainte, systématiquement, il utilisait ce terme-là, systématiquement il y a garde à vue, systématiquement il y a poursuite judiciaire, ça n'est pas vrai. Donc il y a ces mots creux, il y a ces mots vides, et puis il y a la réalité qui est différente, et les associations féministes disent il faut des moyens, il faut au moins 1 milliard pour un plan en fait de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est 1 milliard. 1 milliard pour former, éduquer, et puis aussi dans la police, il faut recruter, voilà.
Mais c'est un petit peu comme en Espagne. En Espagne, ils ont investi, il y a tout un travail de prévention, et pas seulement un suivi des dossiers, les dossiers sont suivis d'assez près, et le nombre d'agressions et de violences faites aux femmes, il a diminué énormément. Donc, on a déjà un exemple, non?
Exactement, on a un exemple. Alors, l'exemple espagnol est formidable, parce que les associations féministes et le gouvernement espagnol ont agi de concert. Des moyens ont été alloués. Il y a vraiment un plan global de lutte contre les violences, du début, c'est-à-dire de l'éducation, de la prévention, jusqu'à l'accueil, jusqu'à la manière dont la justice aussi agit. Parce que là, le rapport se focalise sur les commissariats, mais il y a également la façon dont les plaintes aboutissent ou n'aboutissent pas au terme judiciaire. Et en Espagne, c'est un exemple phénoménal, parce que ça a chuté de manière considérable. C'est un exemple qu'on a sous nos yeux, dont les associations féministes d'ailleurs expliquent, hein, il faut un plan similaire à celui de l'Espagne. Ou aussi, il y a des pays d'Amérique du Sud aussi qui ont mis en place des plans de violence, enfin de lutte contre les violences assez importants aussi. Mais c'est pas le gouvernement qu'on a aujourd'hui qui souhaite se mettre dans les pas espagnols, et c'est fort dommageable. Ouais.
Mais entre-temps, il y a des dysfonctionnements graves. Il y a une femme qui a été tuée par son ex-mari. Lui sortait de prison parce qu'il avait déjà agressé sa femme. Donc il est sorti de prison, la police n'a pas été mise au courant, la justice non plus, et résultat, la femme a été assassinée. Donc il y a, bon, il y a pas que la police, il y a tout le système judiciaire, etc.
Ouais, il y a tout le système judiciaire, enfin policier judiciaire. 65% des femmes victimes de féminicide avaient déjà porté plainte. C'est un chiffre qui est atterrant, parce que elles avaient porté plainte, demandé de la protection, et finalement ça n'a pas été suffisamment fait ou pas fait. Il y a un exemple assez récent, il y a des femmes à Montreuil qui avaient déposé plainte au commissariat de Montreuil, et le commissariat de Montreuil s'était pour certaines moqué d'elles. Et ces femmes-là ont décidé d'agir et de dire ça dysfonctionne. Voilà, ça dysfonctionne, on ne peut même pas aller au-delà. Finalement, et une des femmes qui témoigne explique que son ancien compagnon qui a commis des violences contre elle a même encore aujourd'hui la garde de son fils. Voilà, donc on est dans des situations où ça ne fonctionne pas. On sait que ces situations existent, mais la société en parle maintenant, ce qui est quand même quelque chose d'assez récent, et en parle de manière aussi importante. C'est quand même assez récent, mais il n'y a pas les moyens adéquats, et puis il n'y a pas la formation des professionnels, parce qu'il faut faire changer les mentalités également. Les femmes, aujourd'hui, en parlent, savent que pour en sortir, et il faut aussi passer par là. Le mouvement MeToo est un mouvement qui a libéré l'écoute de la parole des femmes, mais maintenant, il faut des moyens. Voilà, je crois que la clé, c'est quand même celui-ci.
Non, mais Céline Malizé, il y a quand même un problème, c'est que beaucoup de femmes hésitent d'aller porter plainte contre les violences dont elles seront victimes. Elles ont des enfants. Alors, une femme qui va porter plainte avec des enfants dans les bras, qu'est-ce qui se passe après? Parce que bon, à la fin, c'est elle qui se retrouve dans la rue.
Oui, ouais, il y a une, il faudrait une politique aussi d'accueil en termes de logement.
Non, mais pourquoi on n'offrait pas le contraire?
L'inverse.
Voilà, ouais. Tout à fait. Pourquoi?
Ben, c'est vrai. Mais ça, il faudrait que ce soit finalement une décision nationale, que la justice dise une femme victime de violence, bien évidemment, peut rester à son domicile. La vraie difficulté, c'est que si elle reste à son domicile, son adresse est connue. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas des moyens qui sont mis pour que les violences s'arrêtent, que le harcèlement au quotidien n'ait pas lieu, c'est pour ça aussi que les femmes souvent doivent changer de domicile. Mais c'est une vie à reconstruire, c'est extrêmement.
Voilà, et ça veut dire donc, ça veut dire que le bracelet électronique, ça ne suffit pas. Alors, on a parlé de ce que n'allait pas, mais dans le rapport, il y a un certain nombre de recommandations pour améliorer l'accueil et l'évaluation des dangers des femmes victimes de violences conjugales.
Oui, alors il y a des recommandations. D'ailleurs, dans ces recommandations, certaines pourraient être mises en œuvre. Et la préfecture de police, qui le rend de manière très tardive publique, dit même que maintenant elle a mis en œuvre un certain nombre de recommandations et a recommandé en fait un audit au centre Bertine-Auclair pour voir si, en termes d'accueil, d'enregistrement des plaintes, les choses ont été améliorées, en termes de suivi, en termes d'audition. Le centre Bertine-Auclair a nouveau été saisi. Alors, je ne sais pas si c'est de manière officielle ou pas, mais voilà, il y a des choses très pratiques. Alors, par exemple, le rapport dit il faut prévoir la prise de photos, faciliter la collecte de preuves, rechercher les antécédents, etc., et essayer d'harmoniser finalement les façons d'accueillir, voilà, pour que ça se passe au mieux.
Mais en même temps, on demande à ceux qui reçoivent les plaintes d'être sensibles, de pas poser un certain nombre de questions, etc., etc. Parce que sinon, ça va braquer complètement les femmes qui ont été victimes soit de violences physiques, soit de violences sexuelles. Donc, c'est un problème plus général au niveau de la société. Alors, maintenant, on est en période électorale. Donc, on a un ministère qui s'occupe des questions de la femme, on a cette onde d'association, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Probablement jusqu'au mois de juin. Plus personne ne va prendre des décisions. Donc, ces recommandations, ce rapport, est-ce qu'elles vont être suivies des faits ou pas?
Oui, parce que la lutte contre les violences ne s'arrête pas aux échéances électorales, me semble-t-il. Il y a des collectivités locales qui sont extrêmement déterminées hein, sur la lutte contre les violences. La région, par exemple, a des hébergements pas suffisamment, à mon sens, mais la ville de Paris en a, des départements en ont, des communes aussi. Et puis, il y a des collectivités aussi qui tissent des liens très très forts entre les commissariats, les associations féministes, pour finalement que faciliter le lien qui existe entre tous les acteurs qui luttent contre les violences. Après, il faut un changement, me semble-t-il, judiciaire. Pourquoi pas, par exemple, une juridiction spéciale en termes de lutte contre les violences. Mais ça, c'est une proposition politique qui devrait être portée au niveau national. Oui,
ça veut dire qu'on revient à l'exemple espagnol, alors.
Ouais. Bah oui, puisque ça fonctionne en plus. C'est ça, on sait comment réduire les violences, mais là c'est juste une question de moyens.
Mais est-ce que vraiment c'est uniquement une question de moyens, parce qu'il y a des milliards pour certain nombre de choses, ou est-ce que c'est une volonté politique, alors, parce que ceux qui sont au gouvernement, et ça, je parle de ce gouvernement-ci, mais comme des autres précédents, hein, c'est aussi exactement pareil, ils ne se rendent pas compte de la nécessité du problème qui existe par rapport à ça.
Alors,
Je fais un petit peu l'avocat du diable.
Non, je comprends bien. C'est une question à la fois de volonté politique, parce que de cette volonté politique découlent des moyens. La prise de conscience au niveau de la société, je pense qu'elle est réelle. Voilà. Et la société a compris que une société ne peut pas tolérer le fait que régulièrement, des femmes meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Mais après, il y a tout à changer les mentalités. Changer les mentalités, ça veut dire changer les mentalités en termes d'éducation dès le plus jeune âge. Ça veut dire s'interroger sur les rôles sexués dans la société. Ça veut dire former tous les acteurs institutionnels qui accueillent à un moment ou un autre des femmes victimes de violences. Ça veut dire impulser dans les collectivités territoriales des politiques contre les violences faites aux femmes. Ça veut dire en fait une prise de conscience qui se diffuse.
Global, oui, il
faut. Voilà, global.
Céline Malizé, merci. Je rappelle, vous êtes la présidente du groupe Gauche communiste et citoyenne de la région Île-de-France. Merci et à très bientôt.
Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.
aqui ao direto e agora vamos até Porto Alegre, não às minas nas nossas terras, junta-te a nós contra a exploração mineira. Precisamente connosco está Vítor Afonso, do movimento Não às Minas. Vítor Afonso, antes de mais, muito bom dia.
Muito bom dia. Antes de mais, gostaria de dizer que é Monte Alegre, não
Monte Alegre. Monte Alegre.
Sim, norte de Portugal, ok?
Monte Alegre, foi isso que eu tentei. É isso que eu escrevi precisamente. Ora, Vítor Afonso, na sexta-feira, dia 28, manifestações do Porto, Lisboa, Coimbra, Caldas da Rainha, mas não só, precisamente contra as minas de lítio, mas não só o lítio. Qual é a situação exatamente, porque há concessões, há prospeções, qual é a situação exatamente hoje e concretamente em Monte Alegre e Terras do Barroso?
Sim, nesse dia 28 houve de facto várias ações descentralizadas, organizadas por vários coletivos. Digamos que foram ações pontuais, mas um pouco espalhadas por todo o país. Além disso, tivemos uma grande manifestação em Monte Alegre durante a Feira do Fumeiro.
No dia 22, dia 22 de janeiro.
Exatamente, sim, onde também estiveram vários coletivos de Portugal e também de Galiza.
Ora, as minas, Monte Alegre, Serra da Cabreira e Bastões de Alto, Serra da Arga, pedimos contigo, Serra da Estrela, Serra da Cabreira, Serra da Argemela, Serra do Branco, e, entre outras, de maneira que, bom, isto praticamente vai até o Alentejo, esta prospeção, e vocês dizem, ou as minas ou a vida. O que é que significa exatamente?
Sim, sem dúvida, isto de facto... O governo lançou, digamos, um atentado ao interior do país. Estamos desde o interior norte até ao sul, até à zona do Alentejo. Estamos, de facto, com muitos pedidos de prospeção. Digamos que o território português, pedidos de lítio, estão 10% do território português, com uma extensão de pedidos de lítio. E depois temos, para outros minerais, portanto, outros minerais, 20%. Ou seja, temos... 20% do país sobre pedidos de prospeção, pesquisa ou mesmo exploração. Muitos deles já num estado muito avançado. Há inclusive já minas a funcionar para a produção de lítio para cerâmica. Uhum. Mas as últimas que estão a pensar avançar têm a ver com lítio para a produção de veículos elétricos.
Sim, as famosas baterias. Ora, há uma rádio francesa, a France Info, para não citar, precisamente que fez um papel, como costumamos nós dizer aqui impropriamente, a propósito das Covas do Barroso. Pois bem, Covas do Barroso, fala-se de uma exploração com mais de 500 hectares e a exploração vai até 300 metros de profundidade. Isto dá completamente, dá para ficar...
Sim.
Como é que pode ser feita uma coisa destas? Sobretudo que está numa zona que é de património agrícola mundial.
Sim, de facto é assim. Nós aqui na região do Barroso temos 22 pedidos, entre pedidos de prospeção, pesquisa e exploração. Temos já uma mina a funcionar para a produção do tal lítio para cerâmica, que é em Lousas, no Conselho de Boticas também. Uhum. Depois existe esse tal pedido da mina do Barroso, que de facto é um pedido gigantesco, que envolve várias aldeias, fica mesmo junto às aldeias. Depois também no Conselho de Monte Alegre há outro pedido também de outra empresa, a Luz dos Recursos, que é também no meio de três aldeias, também exatamente com essas dimensões também, 350 metros de profundidade, 800 de diâmetro. Há depois um pedido da Borralha, também de Wolframio, também no meio das aldeias, inclusive há casas que ficam mesmo no sítio onde querem abrir a cratera de mina. E de facto para um território de 1.128 km², que é o que tem a região de Barroso, Conselho de Boticas e Monte Alegre, são de facto muitos pedidos e não faz sentido nenhum, porque estas pessoas vivem sobretudo da agricultura e da pecuária. E a região que é classificada não só como património agrícola mundial, mas também reserva de biosfera ao Conselho de Monte Alegre, porque faz parte do Parque Nacional da Peneda Gerês.
Mas, entretanto, bom, o governo e não só dizem, bom, temos um imperativo económico. É verdade que o preço do lítio aumentou de 400%, de maneira que, aparentemente, é uma minadora, entre aspas, iria dar trabalho a muita gente e desenvolver o país. Isso são argumentos económicos e vocês contrapõem o quê?
É assim, esses argumentos económicos, é assim, nós sabemos que são argumentos falaciosos, porque há outras minas a funcionar no mundo e que empregam de lítio e de outros metais, porque isto não é só o lítio, é outros metais, eles querem os metais todos.
Junto com estênio, urânio e por aí fora. Pois.
Sim, tudo, wolframio, estênio, tudo. A questão é que estas minas empregam muito pouca gente, estamos a falar de meia dúzia de postos de trabalho, que chegam aos 20, 30, é isto que acontece em todo o mundo, há muitas minas a céu aberto a funcionar, e nós sabemos quantas pessoas é que estas minas empregam. E depois, além disso, nunca seria emprego para os locais, porque os locais já têm emprego na agricultura e nos pequenos negócios que as pessoas vão conseguindo aguentar.
Uhum.
Ou seja, portanto, assinarem-nos com emprego nesta região não vai acrescentar nada, porque nós sabemos que eles prometem apenas essas centenas que é para terem os projetos aprovados, porque depois, na realidade, isso não vai acontecer.
E do ponto de vista ambiental, porque, bom, automaticamente as agriculturas vão desaparecer, o que é que se vai passar com a água e não só, do ponto de vista ambiental, quais são aqueles problemas que vocês apontam que podem ser uma realidade e pode tornar a vida da população num inferno?
As consequências a nível ambiental são de facto muito graves, a começar pela saúde das populações. Estamos a falar de minas a céu aberto com essas tais crateras de centenas de metros,
uhum.
em que depois as poeiras vão provocar silicose, cânceres de pulmão e outras doenças respiratórias. E está provado que conseguem atingir até 20 km de distância da zona da mina. Portanto, mesmo as pessoas que vivem nas proximidades vão ficar muito afetadas. Depois também, com as apropriações dos terrenos, as pessoas vão também ficar sem condições para continuar as suas atividades agrícolas. Porque, além da eventualidade também de poderem perder as casas e armazéns e outro tipo de construções.
Mas isso não é visto, bom, porque entretanto houve uma consulta que foi realizada aparentemente só através da internet, é verdade?
A consulta foi através da internet, também houve sessões de esclarecimento.
Uhum.
No caso da mina da Borralha houve duas, no caso da mina do Barroso também houve, no caso da mina da Luz aos Cruzes também houve. Mas a questão aqui nem é se há consultas ou não, a questão é que as consultas existem, mas as populações não são ouvidas, ou seja, os processos avançam na mesma, as pessoas dizem que não querem a mina e apresentam as razões, que são válidas, e o governo e as empresas avançam com os processos na mesma, não ligando ao que as pessoas dizem. E é isso que a gente acha lamentável.
E a nível do poder local, as municipalidades estão com a população ou algumas dizem, bom, é necessário mesmo continuar para além da prospeção, a extração. O que é que se passa a nível aí municipal na zona?
No caso do município de Boticas, o município de Boticas, relativamente à mina do Barroso, da Savana, tem uma posição contra e tem-se manifestado sempre contra em todas as posições públicas. No caso de Montalegre, o município de Montalegre tem dado sempre pareceres positivos, quer para a mina de Morgado, a mina do Romano, quer para a mina da Borralha, na freguesia de Salto. Além de pareceres positivos, constituiu um consórcio, digamos, uma sociedade, com a empresa que quer explorar o lítio na mina do Romano em Montalegre. Ou seja, a autarquia, em vez de defender as populações, coloca-se ao lado da empresa, constituindo mesmo uma cidade para explorar a mina, e isto não se entende.
Mas, Sr. Vítor Afonso, no ano passado, no dia 5 de outubro, houveram as eleições municipais. Esta revolta, estas manifestações já datam de um certo número de anos a esta parte. Bom, havia presidentes da Câmara que eram a favor das minas, eles foram reeleitos.
Sim, isso de facto acontece, mas há depois outros fatores que muitas vezes ultrapassam o entendimento das pessoas. Neste caso, as eleições municipais não foi de forma nenhuma um referendo às minas. Há pessoas que de facto votaram no partido do presidente que defende as minas, mas essas pessoas não querem a mina de forma nenhuma.
Uhum.
E portanto não podemos fazer uma colagem de uma coisa a outra. E depois sabemos que há outros fatores que não vou estar aqui a nomear, mas que acontecem e que depois tem alguma importância no sentido de voto das pessoas.
Ora, Sr. Vítor Afonso, no texto, no apelo nacional às manifestações e à jornada de mobilização do dia 28, a passada sexta-feira, lê-se um certo momento que 14 contratos de projetos nefastos de mineração assinados após o chumbo do orçamento do Estado e subsequente dissolução da Assembleia da República entregaram o país à ganância internacional. Significa que tínhamos um governo de gestão e que tomou decisões?
É assim, significa que não, o governo neste caso não estava em gestão, mas o orçamento do Estado tinha caído. O governo continuou em funções. Exato. O que caiu foi a Assembleia da República. Neste caso foram assinados 14 contratos, ou seja, 9 contratos e 5 adendas, porque as adendas acabam por ser também contratos, às vezes ainda são mais nefastas que um contrato assinado inicialmente. Por exemplo, no caso da mina do Barroso em Boticas, foi através de uma adenda que passou para esses, para essas dimensões que hoje têm, e também para lítio, porque antes inicialmente era apenas quartzo e feldspato. É isso que acontece. Esses 14 contratos é onde se inclui o contrato da borralha. Contrato de Wolframio da Borralha, que foi assinado aqui, é um dos contratos do Conselho de Monte Alegre.
Ora, vocês, Movimento Não às Minas Monte Alegre, fizeram uma espécie de questionário aos candidatos às eleições legislativas. É hoje que se vota, bom, não vamos agora entrar nesse aspecto, o voto é soberano e por aí fora, só logo à noite teremos os resultados. Mas, em síntese, quais foram, o que é que constava desse pedido de posição sobre a exploração mineira?
É assim, nesse pedido de posição nós solicitamos aos partidos concorrentes às eleições legislativas que tomassem uma posição, se são a favor, se são contra, e então, no caso de serem contra, o que é que vão fazer para acabar com este plano de fomento mineiro do governo. Neste caso, portanto, a gente pretendia uma opinião dos partidos, saber exatamente como é que se posicionam, e também solicitámos também o que é que acham de haver minas numa região de Barroso classificada como Património Agrícola Mundial e também como Reserva da Biosfera.
Bom, entramos em detalhes todos. As candidaturas responderam ao vosso pedido de posição?
Não, recebemos de facto algumas respostas.
Bom, não vamos agora dizer quem, bom, eu tenho algumas, mas enfim...
Isso sim, recebemos de facto algumas respostas, também não vou nomear nenhum partido em particular. Recebemos as respostas, uns estão mais a favor, outros estão mais contra, mas é assim, também sabemos que estamos em fase de campanha, ou seja, a posição que têm hoje, se calhar depois de... A posição que tiveram até hoje, se calhar depois de amanhã, depois do resultado das eleições, se calhar vai mudar, não é?
Sim, mas pelo menos fica uma resposta preto no branco, não é?
Sim, pelo menos ficamos com uma resposta em escrito relativamente às posições e isso foi importante, sim.
Ora, até que ponto, bom, agora vou largar um bocadinho, um certo número de países, bom, falo da França concretamente, tem interesse precisamente em poder explorar o lítio de Portugal, a indústria automóvel e não só. De maneira que acha que Portugal pode estar a ser pressionado precisamente por esses grandes monopólios internacionais para que a exploração do lítio e de outros minérios vá para a frente?
É assim, relativamente ao lítio existente em Portugal, nós entendemos que os números estão de facto inflacionados e o próprio estudo de impacto ambiental de uma das empresas vem dizer isso. Ou seja, prevê-se que em Portugal existam 60 milhões de toneladas, das quais 30 milhões em Boticas, 30 milhões em Monte Alegre, na mina do Romano e na mina do Barroso. Entretanto, uma das empresas no estudo de impacto ambiental vem falar que afinal que são apenas só 15, ou seja, são apenas só 15 de um dos lados, nos dois serão 45. E mesmo assim, acredita-se que seja especulação. Portanto, o lítio existente em Portugal é pouca quantidade, é difícil a extração, porque está em rocha, e também está pouco concentrada. Portanto, não entendemos este interesse. Muitas vezes pensamos que o interesse destas empresas que é, de facto, a mineração dos fundos comunitários.
Sim, porque, e falamos do impacto ambiental, porque isso vai criar, como falou, da poeira, mas vai ser um deserto? Toda essa zona que vai haver extrações, transforma-se num deserto.
Estamos a falar do abate de florestas, de expropriação de terrenos, de... No caso da borralha, tem galerias com 260 metros de profundidade, está cheio de galerias, aquela zona por baixo. E eles prevêem explodir 720 quilos de explosivos de cada vez. Ou seja, toda aquela zona que está toda esburacada por baixo, com essas explosões, aquilo pode muito facilmente ter abatimentos e as habitações ruírem. Pode haver ali acidentes graves. E depois temos também a questão da contaminação das barragens. Quer na mina da borralha, quer na mina do Romano, existem duas barragens ao lado, que é a mina da Venda Nova, junto à borralha, e a mina do Alto Rabagão, junto ao Romano. Com as minas nas proximidades, aquelas águas vão ser contaminadas, e quer uma, quer a outra, tem captação de água para consumo humano, que abastecem centenas de milhares de pessoas aqui na região norte de Portugal. Principalmente depois da contaminação dos solos e de todos os riscos para a biodiversidade. Hoje na borralha, as minas fecharam em 85, temos estudos das universidades e do LUNEG que indicam que os solos ainda estão com uma percentagem elevadíssima de contaminação de metais pesados.
Enfim, bom, resta saber agora o resultado da eleição de hoje, mas não só. De maneira que, para vocês, é evidente, para a população local, a luta continua, não?
Sim, a luta vai continuar. Assim, nós não vamos descansar enquanto não terminarmos estes processos.
E a propósito, a Quercus tinha reagido contra, precisamente, a prospeção e a exploração. Estou a ver um despacho da Agência Lusa que data do dia 6 de novembro. Essa a organização ambientalista continua a apoiar-vos? Continua...
É assim, relativamente às associações ambientalistas de âmbito nacional, Quercus e Zerros e outras empresas... e outras associações de género, é assim, eles, por um lado, não querem destruir a natureza, mas, por outro lado, querem a eletrificação das cidades. Ou seja, têm uma posição ambígua. Digamos que não são totalmente contra a mineração.
Bem, isso significa, bom, as coisas aqui, o que é mau, vai para a terra do outro, é isso?
É, exatamente, é assim. Eles procuram um pouco que, para despoluírem as cidades, terão que se contaminar as aldeias e o ambiente, não é? Ou seja, para terem os carros elétricos nas cidades, para as pessoas terem carros elétricos nas cidades, eles entendem que deve haver minas no interior, no meio da natureza, para conseguirem ter depois os carros elétricos.
Enfim, é o lítio, sem esquecer que Portugal é o único país da Europa que aceita a proteção de eucaliptos. Bom, e depois a madeira é exportada e depois Portugal importa pasta de papel e para fora.
Pois é como o argumento do governo dizer que a Europa tem só 9% das matérias críticas e tem que explorar cá, dos minerais, que precisa para a eletrificação. E eu pergunto, é assim, mas as empresas podem ser europeias ou não? E é assim, podem depois resolver vender o produto final na Europa, podem exportá-lo para a China ou para os Estados Unidos ou para outro sítio qualquer. Não há governo que possa garantir que as matérias vão ficar na Europa, não é? Hoje em dia estamos no livre comércio.
E, aliás, é aqui, Sr. Vítor Afonso, temos um exemplo disso. Há falta de madeira aqui em França, porque as árvores são abatidas e vão para a China. Bom, enfim, estamos
nesta. Sim, exatamente.
Sr. Vítor Afonso, muito obrigado. Lembro do movimento Não às Minas de Montalegre e vamos acompanhar a par e passo aqui o que se passa para centenas de milhares de portugueses e para a região, para essa zona verde do norte de Portugal. Bem-ajam e até muito breve, então, Sr. Vítor Afonso.
Sim, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar, sim.
Muito obrigado. E nós voltamos dentro de alguns instantes. Sérgio, neste domingo, dia 30 de janeiro, estamos na vossa de companhia já até às 14 horas e lembro a emissão tem redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E amanhã vai arrancar a 15ª edição do Festival Au Fil des Voix, que decorre em Paris entre o dia 31 de janeiro e 18 de fevereiro. Sabem quem vai fazer a abertura deste festival? É Salvador Sobral, que vai estar em concerto na sala de Cigale a partir das 20 horas, um concerto de 3 horas. Dom Monila, não é bem na ilha, mas enfim.
Chorar a minha pena no teu ombro afinal, na mesma dor te condena, choras tudo o mesmo mal, irmãos gêmeos no tormento, filhos da mesma aflição, nenhum dos dois tem alento para dar ao outro uma mão. O amor não nos quer ver.
Salvador Sobral, com o tema Mano a Mano, Monila, Monila, já estava a pensar noutra coisa, me unir flatonte para comer. Salvador Sobral, que vai estar amanhã em concerto na Cigala, a partir das 20 horas, para dar o pontapé de arranque da 15ª edição do Festival Au Fil des Voix, que decorre em Paris a partir da manhã e até o dia 18 de fevereiro. E voltamos a falar de um assunto bastante grave, e d'ailleurs je passe au français directement, le mouvement associatif. Ça concerne non seulement la communauté portugaise, mais toutes les associations en France, mais on va s'intéresser particulièrement aux associations portugaises. Marie-Hélène Ouvrard, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes présidente de la CCPF. Entre-temps, il y a une enquête qui avait été lancée par vous. Après, bon, c'était aussi le Conseil économique portugais de l'Europe, le secrétariat d'État aux communautés portugaises s'intéressait aussi. D'après vous, d'après vos éléments, la situation aujourd'hui, elle est comment au sein des associations?
La situation de la vie associative actuellement est complexe. On a différentes situations. On a des gens qui ont continué à dispenser leur activité, par exemple les cours. Il y en a qui sont investis, par exemple, pour les rencontres croisées. Je pense à, par exemple, Cap Magellan, les Noctambules. Et puis, il y a des gens, des associations qui ont été un peu comme paralysées, peur de développer des activités, ne connaissant pas le lendemain. Mmh. Et donc, la situation est très diverse. Et j'ai envie de dire à toutes les associations, allez-y, foncez, quoi. Le tempérament des Portugais, c'est aussi l'aventure, et croyons que les jours qui viennent seront meilleurs.
Alors, entre-temps, bon, il y a des jauges à respecter, il y a des mesures sanitaires. Petit à petit, je pense qu'au mois de février, les choses vont ça va être allégé un petit peu. Donc, c'est peut-être un moment d'espoir pour que les associations reprennent un petit peu les spectacles, quand il faut les répéter pour les groupes folkloriques. Donc il y a des perspectives positives qui s'ouvrent.
Voilà, vraiment je caresse l'espoir que la situation s'améliore pour tout le monde. Mmh. Effectivement, on a relancé les associations pour avoir une connaissance approfondie de leur situation et vraiment on les invite à se mobiliser puisque cette enquête nous permettra de faire un peu un état des lieux, si je puis dire, pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent précisément, comment mieux les accompagner, et ça sera l'objet de la rencontre nationale le 5 mars à la Maison du Portugal.
Ce 5 mars de cette année?
De cette année, et j'espère que ça va pouvoir se faire. Mmh. Mais j'ai envie de dire aussi à toutes les associations, c'est un moment aussi d'être très présent sur le terrain, puisque là, février, c'est aussi le temps privilégié pour enquêter auprès des parents, pour savoir si les parents inscrivent leurs enfants à l'enseignement du portugais. Et l'enquête, elle va être dispatchée, je dirais, dans toutes les écoles. Et il faut que nos associations, tous, nous soyons mobilisés pour faire en sorte que cette enquête puisse être dispatchée dans toutes les écoles. Et puis, inviter aussi les parents à faire en sorte qu'il y ait un maximum d'enfants qui soient inscrits.
Donc, ça veut dire que les associations, il faut qu'elles utilisent les contacts qu'ils ont de leurs adhérents.
Exactement. Mmh. Ouais. C'est vital. Et puis, à l'occasion de la rencontre nationale, on aura Madame la coordinatrice de l'enseignement qui viendra nous présenter le lancement de cette campagne où, à la fois, il y a un vrai partenariat cette année entre l'éducation nationale française et portugaise pour faire en sorte que le portugais soit reconnu, si je puis dire, à sa juste valeur et que nous ayons de plus en plus d'élèves de portugais.
Alors, on sait très bien qu'en principe, il y a un questionnaire qui doit circuler. Ce sont des directeurs des écoles qui doivent donner aux parents, indépendamment de leur nationalité, indépendamment de leur nom d'origine ou quoi que ce soit. Mais il y en a beaucoup qui disent, bon, ça c'est du boulot de trop, on a déjà assez de problèmes pour organiser nos cours, etc., etc. Pourquoi proposer une langue portugaise ou autre? C'est parce que les directeurs d'école, ils sont souverains, ils décident ce qu'ils veulent.
Ils sont souverains, mais ils sont aussi tenus de respecter la loi. Et la loi fait que en France, il y a un vrai partenariat au niveau gouvernemental pour promouvoir la langue portugaise. Là, les municipalités doivent mettre les lieux à disposition pour les cours et le gouvernement portugais paye les cours. Donc, il est complètement anormal que des directeurs se permettent de dire ben, je ne diffuse pas cette information, ça me fera moins de travail. Ça, c'est pas normal. Et ça, justement, nous, Portugais Association, on doit être complètement mobilisés ces jours-ci par rapport à cette dynamique-là.
Alors, est-ce que, question, bon, il y a des associations de parents d'élèves, notamment au FCPE, où il y a des Portugais, entre autres, une leuse française qui est co-présidente de la FCPE, un exemple. Et justement, alors, pourquoi pas que les associations portugaises travaillent aussi en collaboration avec les associations de parents d'élèves?
Oui, et tu as tout à fait raison, et c'est même vital si on veut continuer à avoir une vraie influence, un vrai pouvoir, pour que cette langue soit vraiment reconnue à sa juste valeur.
Oui, mais moi je dis, pourquoi est-ce que les associations portugaises, bon, elles font des matchs de foot, elles font des, donnent des cours, etc. Pourquoi il n'y a pas un travail en direction des fédérations des parents d'élèves? C'est ma question. Il y a quelque chose, il y a quoi? Il y a, les gens ils disent, oh, c'est pas la peine, oh, c'est pas important, chacun se débrouille.
Alors, à mon avis, il y a de plus en plus de parents d'élèves qui sont dans ces associations de parents d'élèves. Mmh. Et c'est à eux aussi à user de leur pouvoir. Et lors de notre rencontre nationale le 5 mars, justement, on travaillera sur cette question de partenariat, d'optimiser, je dirais, le maximum nos réseaux de façon à pouvoir être opérationnels.
Mmh. Il y a tout un tas d'élus locaux qui sont d'origine portugaise aussi. Et les Portugais, ils votent, pas seulement ceux qui ont la double nationalité, la nationalité française, ils votent pour les municipales, ils votent pour les européennes, donc c'est un poids politique. Est-ce que ce poids politique est utilisé?
À mon avis, pas suffisamment. Pas suffisamment. Mais moi, je sais que, par exemple, en tant qu'élu et ayant la double nationalité, étant chargé de la culture, je veille justement à ce qu'il y ait des salles qui soient mises à la disposition des associations portugaises, qu'on puisse avoir des conférences aussi en lien avec le jumelage, puisqu'on est jumelé avec le Portugal, d'avoir des conférences sur le Portugal et de faire en sorte que les gens changent de regard globalement sur la culture portugaise. Et les rencontres croisées sont une super opportunité pour aider les gens à changer de regard. Et moi, j'invite les associations, les élus, à se faire le maximum, à se mobiliser au maximum, pour qu'on puisse effectivement être très présent dans ces rencontres croisées et qui sont une très très belle opportunité pour changer de regard. Je vois à côté de chez moi hier, il y aura des peintres contemporains qui vont être exposés pendant 3 mois. C'est une occasion merveilleuse pour découvrir l'art, la culture portugaise.
Et peut-être par rapport à certain nombre de personnes de valoriser justement la culture portugaise, surtout c'est l'essentiel, c'est parce qu'il y a un échange. Ici on dit que c'est la saison croisée France-Portugal, au Portugal on dit que c'est la saison croisée Portugal-France. Et il va y avoir des centaines d'initiatives, c'est ça qu'il nous a dit au début de l'émission, justement Emmanuel de Marcimota, c'est le président de cette saison. Merci Marie-Hélène Ouvreur. Donc on a noté 5 mars à Cité Universitaire, réunion des associations.
Voilà, et l'après-midi, ça sera journée consacrée à la journée des femmes lusophones. Donc c'est vraiment une rencontre très dynamique, très sympathique et très constructive.
Merci Marie-Hélène Ouvreur.
Au plaisir, à très bientôt.
Merci. Bom, vocês estão a ver, a conversa é com as cerejas, não? É falando que a gente se entende por um lado e ao mesmo tempo é obter informações. Estão a ver aos poucos e poucos como é que eu já estou a preparar a emissão perto destas datas que interessam. Para já, uma data amanhã, queria lembrar Salvador Sobral em concerto na Cigala a partir das 20 horas. É ele que vai dar o pontapé de arranque da 15ª edição do Festival O Fil des Voix, que vai decorrer em Paris a partir da manhã, dia 31, até o dia 18 de fevereiro. Hoje há eleições relativas em Portugal e para aqueles que pediram para fazer o voto presencial, é como quem diz nas embaixadas ou consulado, ainda podem votar, ainda podem ir até o Consulado de Paris para votar. No que diz respeito aos outros, o voto postal teriam que ter enviado ontem e esse envelope postal tem que chegar a Portugal antes do dia 9, onde haverá a contagem precisamente dos votos da comunidade de portuguesa. E obrigado, Manuel Alexandre, e nós contamos, esperamos estar aqui no próximo dia 6 de janeiro para mais uma emissão e Passagem Nível, que tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira a partir das 0 horas e quando volta o encanto musical.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.